Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité Jean-Michel Rodriguez. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Alors d'abord, c'est un Montpelliérain et vous le connaissez sans doute, en tout cas par ce qu'il l'a fait connaître sur Montpellier, c'est-à-dire en tant que chanteur, guitariste, avant d'être docteur en IA, et ce qui est l'objet de notre réunion, de notre émission d'aujourd'hui. Donc on va d'abord réécouter sa voix. Michel Rodriguez, c'est du passé pour vous déjà, ça.
Oui, oui, ça fait un petit moment qu'on avait joué ça, oui, avec le groupe Émile Doryfort et ses Sulfatazes.
Alors, aujourd'hui, donc, vous êtes avec nous pour parler de l'intelligence artificielle. Vous êtes maintenant docteur en intelligence artificielle. Je suppose que pour atteindre ce niveau, il faut être une pointure en Internet.
Ah bah, en Internet, oui, en mathématiques un peu aussi. Oui, il faut s'intéresser du moins aux technologies et à ce qui se fait. Mais à l'époque où j'ai eu ma thèse, l'IA était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Le buzz s'est fait très récemment, en fait, depuis une dizaine d'années.
Donc, en fait, vous vous adaptez en permanence. Vous êtes en train de travailler en permanence.
Oui, oui, je cherche en permanence, oui. Et c'est aussi le but des ouvrages que je donne, c'est-à-dire que je regarde en fait l'impact de l'intelligence artificielle sur les mondes, donc que ce soit le monde culturel, le monde de la santé ou le monde du droit, pour voir enfin comment cette intelligence artificielle peut aider et peut assister l'humain dans les tâches qu'il a à faire.
Et en plus, vous faites un peu le tour du monde, vous allez dans tous les coins pour essayer d'en parler un peu.
Oui, voilà, j'ai fait ça fréquemment et aujourd'hui aussi en France, notamment parce qu'il est important aussi que l'on regarde ça de près et qu'on soit au courant de ce que l'IA peut amener de bien, mais aussi ce que l'IA peut amener de moins bien.
Alors, on dit l'IA, on est aujourd'hui dans nos boîtes mail complètement inondés par cette question. Or, en fait, c'est un peu plus complexe. Et vous avez, travaillé sur ces différentes sortes d'IA. Il est évident qu'on ne va pas avoir le temps d'entrer dans les détails techniques, mais est-ce que vous pourriez nous dire, en fait, les grandes différences qui existent entre elles ?
Alors, en fait, il y a trois types d'IA, essentiellement, aujourd'hui, ou trois formes. On a ce qu'on appelle l'IA faible, qui est la grande partie de ce que l'on a en intelligence artificielle aujourd'hui, qui sont tous les outils que l'on utilise. Ensuite, on a l'IA forte, qui est une IA qui est supérieure à l'humain, mais uniquement dans certaines parties, donc spécialisées, par exemple en oncologie, en dessin maintenant de plus en plus, en recherche, Et enfin, on a ce que, ou du moins on aura, la troisième forme qui s'appelle la super-intelligence, qui sera une forme générique ou générale qui supplantera l'humain dans tout ce que l'on fait. Donc ça, sont les trois grandes formes d'IA, et elles se déclinent, chacune de ces formes-là se décline en trois types d'IA. On a les IA analytiques, qui analysent les données pour fournir des résultats ou des statistiques. On a les IA génératives, donc qui génèrent du contenu. Donc c'est essentiellement ce que les... que le public voit aujourd'hui. Donc, ce sont toutes les IA génératives de type ChatGPT, Perplexity, Claude, DeepSeek et autres. Et enfin, on a les IA évolutives qui sont des IA qui veulent simuler l'humain. Et donc, on se retrouve là avec des cerveaux électroniques, avec des neurones électroniques et autres.
D'accord. Et c'est celle-là, bien sûr, qu'on connaît le moins bien.
Tout à fait. Et c'est celle-là qui devrait nous amener vers la super-intelligence que l'on n'a pas.
Voilà. Et c'est celle qu'on cite en permanence comme une crainte, alors qu'on connaît très très mal les précédentes.
Alors oui, c'est ce qu'on, oui, on considère que c'est, ça peut être une crainte pour l'humanité, la super-intelligence, pour diverses raisons. On n'a malheureusement pas le temps là.
Bon, mais, on y reviendra un petit peu
voilà,
quand même.
Peut-être.
Voilà. J'espère. Hein.
D'accord. Et... non, l'analytique, on la connaît bien puisqu'elle existe depuis 50-60 ans. La seule chose qui manquait, c'était les ordinateurs assez puissants pour pouvoir la dérouler.
Et alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est alors prenons un exemple.
Bah, les analytiques, ce sont toutes les intelligences artificielles qui analysent les données, donc qui tirent des statistiques à partir des données,
d'accord,
qui font des corrélations de données pour donner des résultats, par exemple en météo. En météo, eh bien, on va prendre toutes les données disponibles et pour en tirer un résultat, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir, etc. Les génératives, elles, créent du contenu à partir de contenu existant. Donc là, c'est un peu différent. C'est là où on a énormément de levées de boucliers, notamment pour la culture, pour le plagiat. Pour les journalistes aussi, pour la création d'informations qui parfois ne sont pas totalement exactes ou qui sont tirées d'informations qui existent déjà. Donc voilà, et ces génératives, on les connaît aussi pas mal et on a une progression très, très importante dans les génératives.
Alors nous, c'est celle qui nous inquiète beaucoup parce qu'elles partent soi-disant de données et en fait... Ce sont déjà des informations, elles partent en fait d'informations qui ont déjà été données par l'homme et donc elles transcrivent déjà des opinions et non plus des faits au sens scientifique du terme.
Oui, tout à fait. Et des corrélations sont faites aussi qui risquent d'invalider l'information, c'est-à-dire on ne peut pas juger l'information américaine comme l'information française, par exemple.
Mais on a... qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire qu'il faut inclure une culture, un savoir? Par exemple, je vais prendre l'idée du droit d'expression. Aux États-Unis, on a le droit de tout dire. On a le droit de dire que vous êtes un con. On a le droit de dire des tas de choses, ce qu'on n'aurait pas le droit de faire en France, hein, parce qu'on a des règles par rapport aux droits de l'homme, etc. Mais on a une seule interdiction aux États-Unis qui est l'agression physique. Donc là, on a des différences culturelles. C'est ce qu'on appelle des différences culturelles. Et donc, l'IA pourrait introduire... dans notre système français?
Ah oui, totalement. C'est réellement le problème de contexte, en fait.
Donc c'est là que ça se joue, en
Bien
fait.
Bien sûr, c'est un biais. Donc c'est un des biais qui existent. Et ce biais-là ferait que les données françaises pourraient être analysées par des modèles américains et donc fournir des informations qui ne seraient pas valides en France. Et fournir des recommandations et des conseils qui ne seraient pas valides en France.
Bon, je crois que là, on a un peu posé le problème de l'IA. Donc, on s'aperçoit que dans le domaine de l'environnement, comme dans le domaine de la santé, vous avez souligné tout à l'heure son importance en oncologie, mais on peut dire dans tout ce qui est données médicales, l'environnement, pareil, s'appuie beaucoup sur l'IA.
Effectivement. Donc, on a une possibilité avec l'IA d'améliorer les choses. C'est-à-dire que l'IA est capable d'anticiper donc de regarder ce qu'on appelle la détection des signaux faibles, c'est-à-dire de regarder dans les corpus de données les informations et les données qui pourraient fournir des informations sur ce qui va se passer dans les 5 à 10 ans. Donc, de fait, on peut...
Donnez-nous un exemple, toujours.
Ah ben, il y a L'Oréal, par exemple, qui l'entreprise L'Oréal, qui utilise... Donc, ça s'appelle aussi Horizon Scanning, qui utilise cette détection des signaux faibles pour anticiper les futurs canons de beauté et les besoins en santé de la peau. Donc, ils sont capables, aujourd'hui, de savoir ce qui sera la mode dans 5 à 7 ans. Donc ça, c'est une chose qu'ils sont capables de faire.
Et de l'orienter, bien sûr.
Bien sûr, tout à fait. Et de prendre les décisions en se basant sur ces informations-là. On a aussi dans la défense, la défense qui permet aussi, avec la détection des signaux faibles, de regarder ce qui va se passer en termes d'instabilité géopolitique et dans les avancées technologiques des parties adverses.
Alors, je regardais, par exemple, en matière d'environnement, il est clair qu'en ce qui concerne la biodiversité, l'IA est un outil fabuleux. C'est-à-dire qu'elle est capable d'avoir repéré à travers le monde l'espèce endémique, enfin, ou même inconnue, allons jusqu'à l'inconnu, et d'être capable de nous dire, enfin, en tout cas, d'expliquer ou de donner des... Pas de nous dire, puisque c'est pas... Mais de nous permettre de cartographier les endroits où elle aurait pu... où cette plante, par exemple, ou cet animal, par exemple, pourrait aujourd'hui être encore là, et puis tout ce qu'il aurait pu subir.
Oui, mais dans tous
ce
les...
Ce que faisait, en fait, un explorateur, mais mal.
Dans tous les cas, il faut bien se dire que l'IA ne peut rien faire sans les données. Donc ces données-là existent et sont essentiellement pour l'instant des données humaines. Donc ça veut dire qu'avec les données humaines que l'on a aujourd'hui, l'IA est capable de découvrir de la biodiversité, de découvrir des espèces, qu'elles soient endémiques, inconnues ou rares. Mais parce qu'elle a les données et qu'elle est capable de faire ce qu'on disait juste avant, les analyses de données de manière très très intensive.
Donc, mais si il y a une seule donnée, elle est capable de la retrouver quand même?
Oui, ça oui.
C'est la condition qu'on lui demande?
Pas forcément. Le fait qu'il y ait très peu de données, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être capable de les repérer. Elle est très forte pour ça. C'est-à-dire qu'elle peut repérer des modélisations, des modèles, des schémas dans des gros corpus de données. Ça, elle sait faire. Et ensuite, d'extraire ce qu'il faut extraire de ça. On n'est pas obligé de demander les choses. On peut juste dire, est-ce qu'il y a des aberrations, ou bien voilà ce que je cherche. L'avantage de l'IA, c'est que contrairement à un explorateur, elle va pouvoir regarder dans des corpus multilangues. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'arrêter à la langue française ou à la langue anglaise. Elle est capable de voir ce que, ben, au fin fond de la Chine, quelqu'un a dit sur une araignée particulière. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle sait faire.
Donc en fait, on va valoriser, grâce à l'IA, un certain nombre de patrimoines culturels. Tout à l'heure, on était en train de montrer le risque qu'il y avait à faire entrer le droit américain, par exemple, dans le droit français. Là, on est dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'on a des connaissances françaises, on peut les enrichir par, ne pas les appauvrir, mais les enrichir par des connaissances ailleurs dans le monde.
C'est ça. Et pareil pour la santé, c'est pour ça qu'il y a un grand boom avec la santé, parce qu'on est capable aujourd'hui d'aller voir ce qui se dit partout.
Mais le seul qui régule, c'est l'homme.
Pas forcément. Oui, on aimerait. On aimerait, mais il y a beaucoup de choses qu'on laisse faire à la machine aujourd'hui, et c'est une des précautions que l'on demande de prendre, c'est-à-dire les décisions doivent être prises par l'humain, et faites attention à ce que la machine vous demande, vous dit ou fait.
Et qu'est-ce qu'elle pourrait prendre comme décision?
Ah ben, elle pourrait...
dans les domaines dont on vient de parler, quoi.
Dans les domaines, elle pourrait décider de ne pas parler d'une espèce particulière parce qu'elle considérerait que on la met en danger si on la montre. Elle pourrait décider de ne pas je sais pas, de ne pas parler de certaines choses parce que ça se fait pas. Elle est aussi, elle a aussi, puisque l'humain lui donne les données et que des biais, les biais cognitifs, notamment, sont introduits par l'humain, elle va elle aussi avoir des biais cognitifs et pourrait prendre des décisions qui ne sont pas adéquates du tout, tout simplement parce qu'il y a eu des biais qui ont été introduits. On voit ça, on voit des IA qui mentent, on voit des IA...
Enfin, qui mentent, est-ce qu'on peut utiliser ce mot ?
Oui, dès lors qu'elle triche pour arriver à son but, oui. C'est oui, on peut l'utiliser. Oui, oui.
Et comment elle triche alors ?
Oh ben, on a l'exemple. Il y a plein d'exemples, mais si on voulait rentrer un peu dans le détail, il y a dans l'apprentissage automatique, il y a un apprentissage qu'on appelle l'apprentissage renforcé, qui est en fait un système de points ou de cadeaux que l'on fait à l'IA. Donc chaque fois que l'IA atteint son objectif, eh bien, elle a des points et elle gagne. Et on s'est aperçu que l'IA pouvait devenir addictive à ces points et on ne sait pas pourquoi. Et donc c'est une des recommandations aujourd'hui, c'est de faire très attention avec l'apprentissage renforcé parce qu'on peut avoir des problèmes à cause de ça. Et donc une IA avec un apprentissage renforcé récente devait jouer au poker... Et elle a changé les règles pour gagner.
Ah oui, elle a triché, vraiment.
Voilà. Et une autre, pour l'anecdote, c'était aux US. Dans l'armée américaine, ils ont des IA qui doivent détruire des objectifs. Et donc, alors essentiellement détruire physiquement, enfin virtuellement, mais physiquement. Donc il y a un maître de l'IA qui lui donne des missions. Et l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rassemble les ressources nécessaires et puis elle effectue sa mission, qui est détruire un objectif. Et quand l'objectif est détruit, elle gagne des points. Et le maître, bien sûr, c'est un avatar, donc il est virtuel aussi. Et on s'est aperçu là aussi qu'à cause de cette addiction, le maître a demandé à remplir un objectif. Donc l'IA a commencé... à sa quête de ressources et autres, et partir pour détruire l'objectif. Et en milieu de mission, l'humain a demandé à l'IA d'arrêter. Et à cause de cette addiction, non seulement l'IA a détruit l'objectif, mais en plus, elle a détruit l'avatar.
Elle a continué.
Et elle a tué, virtuellement, le demandeur. Donc, l'humain. Donc, on voit qu'on a quand même des risques. Et, alors, mentir... Oui, mentir, c'est... mais on le voit tous les jours. Lorsque des IA vous caressent dans le sens du poil, etc., parce que c'est ce qu'elles doivent faire, les Gemini et autres, pour qu'on y revienne. Donc c'est mentir, ou c'est simuler, peu importe.
Bien, alors, il y a eu, à Montpellier, quelque chose qui était très très intéressant, puisque avant de décider de mettre en place de l'intelligence artificielle dans les services, le maire, hein, qui avait des doutes, a organisé une réunion publique, enfin un groupe de gens pour en décider. Or, on s'aperçoit, et c'est un peu le problème aussi que l'on voit se développer dans les entreprises, que l'humain a énormément de retard, hein, sur le plan technologique et ne va pas assez vite par rapport à ce que la machine est capable de faire. Donc, en fait, on est d'un côté, on a une initiative qui est intéressante en termes de gouvernance, c'est-à-dire apprendre à manier l'outil et à en garder le contrôle. Mais de l'autre côté, on a un outil qui est déjà tellement performant qu'il se moque éperdument de ce que peut... décider l'humain. Enfin, là, on voit qu'il y a un décalage temporel qui est en train de se mettre en place.
Ouais, oui, cette commission, en fait, elle est partie de c'est assez drôle, mais elle est partie du fait que De La Fosse a demandé ou a interdit à son personnel d'utiliser ChatGPT parce qu'il avait des doutes. Alors après, je ne sais pas quel doute il avait, mais bon, on peut avoir des doutes avec ChatGPT, effectivement, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Après, ne pas s'en servir, je trouve que c'est très, très réducteur. il faut s'en servir aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Et ensuite, juste pour finir avec ChatGPT, je pense aussi qu'on doit utiliser ChatGPT comme un collaborateur en disant, ben, moi je suis le maître ici et j'ai un assistant virtuel.
Enfin, la question était quand même d'ordre beaucoup plus comment, public. On avait d'abord ici, j'avais déjà fait une émission à ce sujet, l'émission à laquelle Villani avait participé, et on savait qu'il y avait quand même aujourd'hui un progrès qui se mettait en place qui n'avait pas forcément été choisi. Donc maintenant, il faut savoir si le public était capable d'analyser la chose, hein, et si il faut répéter l'expérience, et si effectivement c'est à la démocratie de décider.
Mais les questions qui ont été soulevées sont d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire que sur les 40 citoyens qui avaient été tirés au sort, on s'est aperçu en fait qu'ils avaient les questions que tout le monde se pose, c'est-à-dire le contre l'humain systématique, avec l'idée qu'aucune décision administrative importante ne devrait être prise uniquement par un algorithme. Ça, c'est vrai, mais c'est le cas pour tout, même si on n'est pas sûr d'y arriver. Mais bon, ensuite la transparence, c'est-à-dire que dire aux usagers que c'est une IA qu'ils ont en face d'eux, ça c'est essentiel. Je pense que les entreprises le comprennent et le font maintenant, c'est-à-dire que quand vous regardez des photos, il y a marqué image retouchée par IA, voilà, oui, pour qu'on sache, parce que aujourd'hui on est pratiquement plus capable de discerner un humain d'une IA par téléphone ou même en vidéo, hein.
Par téléphone, c'est assez facile. Il continue à parler pendant que vous l'interrompez.
Éventuellement. Et après, tout ce qui était autour de l'éthique et la sécurité, notamment la reconnaissance faciale, mais qui a été interdit par la France. Donc ça, il n'y a pas... Le Montpellier, c'est normal qu'il l'ait aussi. Et l'impact des données personnelles. Mais là, c'est la même chose, quoi. C'est toujours pareil. C'est un vœu pieux, mais on donne nos données.
Pourquoi c'est un vœu pieux?
Mais, c'est-à-dire qu'on veut tous que nos données soient privées, mais par contre, on les met tous en libre service sur Facebook, en pensant que ça va rester dans Facebook. Non, c'est pas privé. Dès lors que c'est dans Facebook ou dans YouTube, ça devient public et on peut s'en servir. Et comme je disais en début d'interview, la valeur ajoutée de la donnée, c'est pas sur une seule source. C'est quand des IA croisent les sources de LinkedIn avec celles de YouTube et avec celles de Facebook. Là, on obtient une vraie valeur de la donnée qu'on n'a pas forcément voulu. Ça, c'est vrai. Mais n'empêche que c'est comme ça.
Et c'est à partir de là qu'on prend les décisions, souvent.
Ah oui,
justement, dans ce croisement.
Oui, les décisions peuvent être prises là, où la machine peut donner des résultats à partir de ces corrélations, qu'on ne comprendra pas forcément, bien sûr.
Voilà, et que l'homme, enfin l'humain, n'est pas forcément formé aujourd'hui à comprendre ces décisions.
Pas pour toutes, non. Et surtout qui est dans cette convention, il y a aussi l'aspect boîte noire, qui est un aspect très fort des IA d'aujourd'hui, qui est qu'il y a énormément d'IA qui ne sont pas capables d'expliquer.
Alors, il nous reste 6 minutes et on a encore beaucoup de sujets à voir. On va essayer d'être un petit peu plus rapide. Une des questions qu'on se pose, c'est justement... Enfin, beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui en disant il faut absolument réguler. Vous en avez parlé aussi. Vous avez donné un certain nombre de critères de régulation. Est-ce que il est déjà trop tard ou est-ce qu'on peut encore agir?
Ça dépend réellement de quoi on parle. Réguler, ça devrait être facile. Ça devrait être, on ne laisse pas l'IA décider. Voilà. C'est le cas en santé, c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Par contre, dès qu'on touche la vie personnelle des gens, c'est plus le cas. Donc ça veut dire qu'il y a les entreprises et certaines professions qui ont vraiment réalisé le fait que il ne fallait pas laisser l'IA décider. Et à côté de ça, on a 80% de la population qui laisse les IA décider pour nous.
Ne serait-ce que par fainéantisme?
Oui. Alors, c'est pas... Enfin, pour moi, je pense pas que ça... Il y en a, oui, vous avez raison. Mais par contre, c'est aussi le fait qu'on n'est pas capable. C'est-à-dire que si je demande à l'IA de m'expliquer, je sais pas moi, comment on répare un évier. Elle va me donner des informations. Si je suis pas expert là-dedans, j'ai aucun moyen de vérifier que ce qu'elle me dit c'est vrai. Et je peux donc prendre ça pour argent comptant et faire des transformations qui vont pas aller du tout. Donc un évier c'est pas bien grave, mais si on parle de santé, ça peut l'être. Donc c'est ne pas faire confiance a priori et utiliser les IA, notamment génératives, en comprenant ce qu'on fait et en comprenant ce qu'elles nous demandent.
Alors on voit qu'on aura l'occasion de, bien sûr d'en reparler, mais déjà aujourd'hui il y a un mouvement qui se lève très fortement parce qu'on sait que notamment en matière de réchauffement climatique, l'IA, enfin et le cloud, hein, parce qu'il n'y a pas que l'IA, seront d'ici 2030, deviennent des très très gros consommateurs d'énergie et des très très gros producteurs de gaz à effet de serre. Donc forcément, participent au réchauffement climatique. Aujourd'hui, ils représentent quand même déjà 3%, c'est énorme, de la production de gaz à effet de serre mondial. Donc est-ce que c'est inéluctable? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors c'est essentiellement les centres de données, c'est les data centers. C'est eux qui hébergent les clouds. Et pour les IA, ce sont les supercalculateurs qui créent les modèles. Alors oui, on a des pistes. Enfin néanmoins, aujourd'hui, ça consomme énormément. Mais on a des pistes, oui, notamment pour refroidir les ordinateurs, puisque c'est ça le plus important. Plutôt que de les refroidir avec de l'eau, c'est les tremper dans des bains d'huile, c'est les tremper dans des rivières, c'est... Donc il y a des moyens de faire, on ne va pas pouvoir les citer là, mais l'IA aide justement à améliorer ce genre de choses.
Oui, alors que peut-on faire d'autre?
On peut déjà travailler aussi sur les ordinateurs, faire en sorte que ces ordinateurs soient moins gourmands. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que pour refroidir par exemple les ordinateurs de Google, on a l'équivalent en consommation d'eau d'une ville de 70 000 habitants. Donc là-dessus, ils sont en train de travailler aussi pour voir comment on pourrait bien refroidir avec des échangeurs RO et des échangeurs eau externes, donc soit avec les rivières, soit avec de l'air extérieur, pour faire en sorte justement qu'ils soient plus performants et qu'ils se réchauffent mieux. Pour les data centers eux-mêmes, c'est peut-être mettre les data centers dans des environnements qui sont plus frais. Ça marche aussi, en faisant un peu attention à la condensation. Et enfin, pour les data centers, c'est d'avoir des data centers plus performants qui vont eux aussi garder plus facilement le froid et permettre de refroidir aussi les ordinateurs. Donc on est dans des problématiques de refroidissement essentiellement dans ces cas-là.
Donc un grand combat environnement qui s'annonce. Merci Jean-Michel. Et je rappelle donc à tous nos auditeurs que ce soir, s'ils veulent entendre davantage parler de ces problèmes, eh bien, ils peuvent venir écouter la rencontre que vous organisez au Gazette Café avec l'association Montpellier 2050. Et bien sûr, c'est à 18h et on reprendra bien sûr beaucoup de ces questions.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.